VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson. Au sommaire ce 6 août 2015,
l'Union africaine appelle les Burundais à la plus grande retenue et condamne fermement l'assassinat de Kom Harerimana, un leader du parti au pouvoir.
Au moins 200 personnes portées disparues au large des côtes libyennes après le naufrage d'un bateau mercredi.
Les djihadistes du Sinaï menacent d'exécuter un otage croate si le gouvernement égyptien ne libère pas des femmes musulmanes.
Les dirigeants du football congolais prennent des mesures pour éradiquer la violence dans les stades.
Établir les dispositifs aux abords et dans les stades pour filtrer les entrées. Interdire formellement l'usage de gaz lacrymogène pour disperser les foules au stade et établir l'ordre.
Le secrétaire général adjoint de la FECOFA, Inyangi Bokinda, lors d'un séminaire à Kinshasa.
Les autorités camerounaises disent avoir capturé 4 militants présumés de Boko Haram qui projetaient une attaque contre des réfugiés.
Le sommet Yali pour les jeunes leaders africains s'est refermé hier soir à Washington.
J'interviens dans l'éducation des enfants en zone rurale et on sait qu'en Afrique, lorsqu'on parle des zones rurales, on voit tout de suite la pauvreté.
Un participant de la République du Congo avertit Nzoyi, fondateur de l'ONG Espace Opoko.
Le fragment d'aile d'avion trouvé à La Réunion provient bien du vol MH370, selon la Malaisie.
Et avant la minute éco, les sports, voici le journal. L'Union africaine a appelé au calme et à la retenue au Burundi après l'assassinat d'un membre éminent du parti au pouvoir dans la capitale Bujumbura, Kom Harerimana, président de la branche du CNDD-FDD dans la région de Kanyosha, se rendait à son bureau à moto lorsqu'une foule hostile lui a lancé des pierres. Les assaillants l'ont fait descendre de la moto et l'ont abattu. Dimanche, le responsable de la sécurité du président Pierre Nkurunziza a été tué dans une embuscade. Et lundi, le militant des droits humains Pierre Claver Mbonimpa a été blessé par balle. Dans un communiqué, le porte-parole de la commission de l'Union africaine Jacob Eno-Eben a fermement condamné ces actes qu'il qualifie de barbares. L'Union africaine appelle tous les Burundais à faire preuve de la plus grande retenue, à rester très calme et à ne pas être provoqués par ces actes, a-t-il souligné.
Environ 200 personnes étaient portées disparues mercredi après-midi au large des côtes libyennes après le naufrage d'un bateau de pêche transportant des migrants, ont fait savoir les gardes-côtes italiens. Des précisions d'Eddie Isango.
Une opération de secours massive a permis de sauver 400 survivants et de repêcher 25 corps, d'après les derniers bilans des gardes-côtes donnés hier soir. Tandis que les navires transportaient plus de 600 personnes. Un navire militaire irlandais parmi les premiers secouristes a sauvé environ 367 personnes, parmi lesquelles 12 femmes et 13 enfants. Et les opérations de recherche d'éventuels survivants allaient se poursuivre toute la nuit, ont affirmé les autorités irlandaises. Au total, 7 navires soutenus par des hélicoptères et un drone sont mobilisés pour cette vaste opération de sauvetage. Les corps de plusieurs migrants morts de déshydratation ces dernières semaines en mer ont aussi été retrouvés dans les bateaux secourus. Ce naufrage pourrait être le pire depuis celui qui a coûté la vie à quelques 800 personnes en avril. Selon l'OIM, la barre de 2000 morts et disparus en mer cette année a été franchie, alors que celle de 200 000 arrivés par la mer en Europe devait être atteinte dans les prochains jours.
Des hommes affirmant appartenir au groupe État islamique ont diffusé une vidéo dans laquelle ils menacent de décapiter un otage croate si le gouvernement égyptien ne libère pas les femmes musulmanes en détention. La vidéo montrant un homme en combinaison jaune à genoux devant un militant masqué tenant un couteau proviendrait du groupe djihadiste actif dans le Sinaï. Lisant à haute voix une note, l'homme se présente comme étant Tomislav Salopek, âgé de 30 ans, disant avoir été capturé le 22 juillet. Il dit qu'il le sera tué si les autorités égyptiennes ne cèdent pas aux demandes du groupe dans les 48 heures. Le ministère des Affaires étrangères de la Croatie a confirmé qu'un de ses ressortissants a été enlevé au Caire le mois dernier.
Les autorités camerounaises affirment avoir arrêté 4 militants présumés de Boko Haram qui se sont fait passer pour des réfugiés et projetaient d'attaquer un camp de personnes déplacées près de la frontière nigériane. Le point avec Lionel Gaïma.
Les suspects transportaient des explosifs dans leur bagage et ont été interceptés au camp de Minao, dans l'extrême nord du Cameroun, a révélé Issa Tchiroma, porte-parole du gouvernement camerounais. L'opération a également permis de récupérer une arme AK-47, des munitions ainsi que deux motos, a précisé le porte-parole. Le camp de Minao abrite 44 000 Nigérians et enfouit l'insurrection de Boko Haram. Les autorités camerounaises avaient précédemment fait savoir que les terroristes se déguisaient pour attaquer le pays. En mai de l'année dernière, 15 militants de Boko Haram, portant l'uniforme d'un corps d'élite de l'armée camerounaise, ont été tués à Kolofata, ville frontalière camerounaise. Et le mois dernier, trois kamikazes déguisés en marchands et mendiants ont fait exploser leurs charges, tuant des dizaines de personnes à Maroua, capitale de la région camerounaise de l'extrême nord.
En Centrafrique, près d'un quart des électeurs potentiels ont été enregistrés à 2 mois de la première échéance électorale. L'opération d'inscription se poursuit, a précisé le chef de la mission onusienne à Bangui. Les détails avec Chérubin Dorsil.
Lors d'une présentation mercredi devant le Conseil de sécurité, Babacar Gaye a déclaré que près de 2 millions de Centrafricains éligibles se sont fait inscrire sur les registres électoraux, la plupart dans la capitale Bangui. Le processus est en train d'être lancé, dit-il, dans le reste de la RCA. Le diplomate onusien a mis l'emphase sur l'inscription des quelques 400 000 citoyens devenus réfugiés depuis le début de la crise en 2013. Entre 75 et 85% d'entre eux sont des musulmans, signale Babacar Gaye. Leur participation au processus est cruciale pour la réconciliation prônée par les dirigeants centrafricains et encouragée par la communauté internationale. La Cour constitutionnelle de la RCA a d'ailleurs stipulé que les réfugiés doivent avoir la possibilité de voter. « Je suis certain que le Parlement de transition va respecter cette décision », a dit Gaye dans un entretien avec la presse après la réunion du Conseil de sécurité, tout en insistant sur la relation entre le caractère inclusif des élections et leur crédibilité. Les Centrafricains iront aux urnes à 3 reprises, le 4 octobre pour un référendum sur la Constitution, le 18 du même mois pour la présidentielle et les législatives, et le 22 novembre pour un éventuel second tour.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les autorités malaisiennes affirment que le fragment d'aile retrouvé à La Réunion provient du Boeing du vol MH370 de Malaysia Airlines. De son côté, la justice française parle de très fortes présomptions. Rachid Bouda nous en dit plus.
Quelques heures d'analyse ont suffi aux experts réunis près de Toulouse pour confirmer que le flaperon charrié par la mer a dérivé sur plusieurs milliers de kilomètres à partir de l'endroit de l'océan Indien où l'avion s'est abîmé, affirme le premier ministre malaisien Najib Razak à Kuala Lumpur. Il y a de fortes chances que la pièce provienne d'un Boeing en raison de ses caractéristiques techniques communiquées par les représentants de la compagnie aérienne, a fait savoir de son côté le procureur adjoint de Paris. Selon lui, les fortes présomptions doivent être confirmées par les analyses complémentaires qui débuteront ce jeudi. Les experts s'activent dans l'espoir de pouvoir apporter dans les meilleurs délais une information complète et définitive aux familles des victimes. Le vol MH370 a mystérieusement disparu au large de l'océan Indien le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord. Depuis, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris.
Le président Barack Obama a appelé le Congrès américain à entériner l'accord visant à restreindre le programme nucléaire de l'Iran. Pour M. Obama, il s'agit du plus important débat en politique étrangère depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Lionel Gaïma.
Dans un discours à l'Université américaine de Washington, M. Obama a rappelé l'adresse faite en 1963 au même endroit par le président John F. Kennedy, où il avait appelé à des pourparlers avec l'Union soviétique pour la réduction des essais nucléaires. L'appel du président Obama intervient alors que le législateur américain examine l'accord du 14 juillet en prévision d'un vote de soutien ou de rejet en septembre. Le chef de l'exécutif américain a mis l'accent sur le vaste soutien obtenu par l'accord de Vienne au sein de la communauté internationale, à l'exception de l'État d'Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a en effet vivement critiqué cet accord, y voyant une menace pour la sécurité de son pays et de la région. Il a rappelé à plusieurs reprises que le document négocié par les États-Unis, les 4 autres membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne empêchera l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Les inspections s'effectueront, a-t-il dit, sur une base permanente. Et sans cet accord, Téhéran aura le champ libre pour renflouer son arsenal et devenir, à coup sûr, un État plus dangereux, a prédit Barack Obama. Un sondage de l'université Quinnipiac révèle que 58% des Américains sont contre l'accord sur le nucléaire iranien.
Et les États-Unis vont annoncer un plan d'aide aux victimes des inondations au Myanmar, où les efforts internationaux s'activent pour secourir des dizaines de milliers de sinistrés. S'exprimant à Kuala Lumpur mercredi, le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré que l'ambassade américaine à Yangon travaille en étroite collaboration avec les responsables du Myanmar pour déterminer les priorités de l'aide.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par Michel Joseph.
Le Burkina Faso lance ce jeudi un appel d'offres pour la cession de bons du Trésor d'un montant de 40 milliards de francs CFA sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, a appris l'agence APA auprès du ministère de l'Économie et des Finances. L'opération est organisée par le Trésor public du Burkina Faso et l'Agence régionale d'appui à l'émission et à la gestion des titres publics des États membres de l'UEMOA. La Société de promotion et de participation pour la coopération économique, Proparco, spécialisée dans le financement du secteur privé, a été approuvée par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers en qualité de garant dans le cadre des opérations financières sur le marché financier régional de l'UEMOA. La société Proparco a été créée en 1977 par la Caisse centrale de coopération économique, devenue par la suite Agence française de développement AFD. Aujourd'hui, la Proparco est une institution financière de développement conjointement détenue par l'AFD et par des actionnaires privés du Nord et du Sud, organismes financiers français et internationaux, entreprises, fonds et fondations. Les cours du pétrole ont baissé hier à New York, effaçant leur hausse de la veille sans que le marché ne trouve de soutien dans les chiffres hebdomadaires sur les stocks américains en baisse pour le brut, mais en hausse pour l'essence. Comme de nombreux analystes s'y attendaient, le marché de l'or noir poursuit ainsi son chemin vers ses plus bas niveaux depuis la fin des années 2000, rapporte l'AFP.
Merci beaucoup Michel Joseph pour la Minute Éco. À présent les sports, présentés par Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nathalie.
On commence par le championnat de football camerounais. Garoua Caracol toujours en tête.
Malgré un match en retard, le Coton Sport compte toujours 10 points d'avance sur son poursuivant. Le Coton Sport de Garoua s'est imposé 2-1 chez l'Unisport Onkam. Le deuxième du championnat, New Douala Star, n'a pu faire que match nul 1 partout chez le Fauvu de Baham.
La rubrique des transferts en football.
Le Sporting Club du Portugal a renoncé à engager l'international ghanéen Kevin Prince Boateng, arrivé pourtant mardi à Lisbonne. Après des négociations avec le sportif, il n'a pas été possible de trouver un accord sur ses droits à l'image, a précisé le club sur son site internet. Quelques heures plus tôt, la presse portugaise avait annoncé que le footballeur n'avait pas donné satisfaction lors des tests médicaux, empêchant la conclusion d'un accord. Kevin Prince Boateng, 28 ans, s'apprêtait à signer un contrat de 2 ans avec le club lisboète, selon la presse locale. Et puis le Paris Saint-Germain qui frappe fort sur le mercato estival avec la signature de l'ailier argentin Angel Di Maria. Le joueur filiforme surnommé Fideo, le vermicelle, s'est dit ravi de rejoindre le PSG. On parle aussi de l'ailier malien Bakary Sako, libre depuis son départ de Wolverhampton en juin dernier. Il s'est engagé pour 3 saisons avec Crystal Palace, selon le club anglais. Enfin, l'attaquant italo-argentin Pablo Osvaldo, qui avait été libéré le mois dernier par Southampton, il a signé au FC Porto pour 1 an et 2 années supplémentaires en option.
Et on termine par les mondiaux de natation, Ledecky Superstar.
Après ses titres sur 400 et 1500 mètres, Kelly Ledecky a également décroché l'or hier sur 200 mètres. L'américaine a pris les commandes dans la troisième longueur et s'est imposée en 1 minute 55 secondes et 16 centièmes. Devant toutes les spécialistes du 200 mètres, notamment l'italienne Federica Pellegrini et l'américaine Missy Franklin, Ledecky tentera de remporter l'or sur 800 mètres pour un quadruplé encore jamais réalisé dans l'histoire des championnats du monde de natation.
Merci beaucoup Nicolas Pinault pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Halte à la violence dans les stades de la RDC. C'est l'engagement pris par les acteurs du football congolais ayant participé à un séminaire à ce sujet. En 2014, 15 personnes sont mortes et de nombreuses avaient été blessées dans un stade de Kinshasa lors d'un match entre V-Club et Mazembe. Les recommandations issues de ces travaux vont servir de feuille de route à l'organisation de tous les championnats de football. Voici un reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Pendant 48 heures, autorités politiques, responsables de la sécurité, dirigeants des instances du football, des clubs, encadreurs techniques, journalistes, supporters, bref, tous les acteurs du football ont passé au peigne fin les causes de la violence dans les stades de la RDC. Les recommandations qui en ont découlé ont été couchées dans un document qui va guider l'organisation des championnats à tous les niveaux à partir du mois prochain. Le secrétaire général de la Fédération Congolaise de Football Association revient ici sur quelques-unes d'entre elles.
Construire des infrastructures modernes répondant aux standards internationaux tels que fixés par la FIFA et la CAF en matière de sûreté et de sécurité, en entendant réfectionner ceux existants en tenant les normes précitées. Organiser des procès à flagrance à caractère dissuasif et éducatif en cas de violence grave. Établir les dispositifs aux abords et dans les stades pour filtrer les entrées. Interdire formellement l'usage de gaz lacrymogène pour disperser les foules au stade et établir l'ordre.
Ces conclusions doivent s'appliquer dès maintenant. Maintenant, vœu exprimé par Frédéric Kitenge Kikumba et Patrick Banishai, directeur sportif du Tout-Puissant Mazembe et secrétaire général de l'ASV Club.
Nous tenons absolument à ce que les conclusions auxquelles nous sommes arrivés trouvent leur début d'application dans les jours qui viennent parce que nous devons commencer le championnat national. Je suis persuadé que si tout le monde s'y met, nous arriverons à organiser un championnat exemplaire.
Nous estimons que pendant les 48 heures, nous avons fait un travail très bien pour le développement de notre football, pourvu que cela ne reste pas lettre morte dans les tiroirs des décideurs.
Également pointé du doigt les insuffisances de certains journalistes sportifs qui n'aident pas à véhiculer un message objectif sur le football. Pierre-Célestin Kabalamouanambouy est le président de l'Association des journalistes sportifs congolais.
Il y a beaucoup de jeunes confrères qui ont fait leur entrée dans le métier. Ils ont le savoir journalistique, mais ils arrivent sur un terrain où ils trouvent la nécessité de notre savoir. C'est le savoir sportif fondamental.
Constant Omari Selemani, le président de l'organe fêtier du football de la RDC, s'est de son côté engagé à appliquer ses résolutions tout en appelant chacun des acteurs à jouer sa partition.
Il faudra se saisir de différentes résolutions, les mettre en pratique et voir comment leur pratique peut nous permettre de pouvoir évoluer. Je prends l'engagement de pouvoir suivre et assurer l'exécution de ces résolutions.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Édouard Ouédraogo, directeur de publication du premier quotidien d'information du Burkina Faso, l'Observateur Palga, a publié son nouveau livre. Dans ce second ouvrage, il met l'accent sur un point primordial, la vérité dans l'intérêt général. Notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo, nous en parle.
Heures et malheurs de la politique et du journalisme au Burkina. Quelle leçon est une œuvre à la carte qui semble être deux livres en un, suivant les explications de l'auteur Édouard Ouédraogo.
Il y a effectivement peut-être même plusieurs livres en un, mais en tout cas c'est au moins deux livres en un, dans la mesure où le prologue est une espèce d'autobiographie sur mon enfance et un peu l'histoire de ma famille. Et le reste maintenant, c'est bien sûr la genèse de l'Observateur, le rappel de certains grands événements de la politique nationale, de la loi cadre à l'indépendance, et puis évidemment l'évolution du journal, l'incendie, la traversée du désert, la lutte pour la reprise en 1991, et puis l'affaire Norbert Zongo et ses conséquences.
La titraille du livre porte la particule Quelles leçons? Et voici les enseignements qu'en tire Baba Hama. Il est ancien ministre de la Culture du Burkina.
Entre le journalisme et le politique, il y a toujours ce petit jeu du chat et de la souris. Évidemment, la propension bien connue, c'est celle de l'homme politique qui cherche toujours à être caressé dans le sens du poil. Et puis bon, il y a le journaliste aussi qui se bat pour jouer véritablement son rôle d'éveilleur de conscience.
Pour Mokhtar Ouédraogo, jeune journaliste, ce livre est une aubaine.
Nous, les jeunes journalistes, ce livre est un peu béni pour nous parce que ça nous permet d'apprendre et de comprendre que le métier du journalisme, c'est un métier à risque. On peut y perdre la vie, c'est un sacrifice, il faut accepter ce sacrifice. Avec l'exemple de la mort de Norbert Zongo, c'est dans le cadre de son travail de journalisme qu'il était assassiné. Et même l'auteur du livre, Edouard Ouédraogo, son journal s'est incendié dans le cadre de son métier. Je peux témoigner, moi-même j'ai été victime, je suis allé pour couvrir la toute première marche de l'opposition au Burkina Faso. Et c'est dans ce cadre que j'ai respiré les gaz, je n'ai pas supporté. Je suis tombé, on m'a amené à l'hôpital. Donc le métier du journalisme, c'est un métier à risque. Et qui s'engage dans le journalisme doit accepter ces risques.
En sorte de réponse à l'aspect très effrayant des gros risques que courent les journalistes, l'auteur Edouard Ouédraogo se veut rassurant.
D'une manière générale, la vie est faite de risques. Et ce n'est pas pour autant qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Le bonheur de ce métier, c'est d'abord que nous sommes un contre-pouvoir. Je ne dis pas que nous sommes contre le pouvoir, mais notre rôle, c'est un rôle de veille. Travailler à faire en sorte que le pouvoir ne corrompe pas absolument ceux qui l'exercent. Donc c'est un sacerdoce. Et si nous le faisons bien, nous en tirons une satisfaction morale, nous en tirons des motifs de fierté.
Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le sommet Yali a pris fin hier soir à Washington. Les 500 jeunes leaders africains invités par les États-Unis sont en passe de rentrer dans leurs pays respectifs où ils vont partager leurs expériences enrichissantes. Voici un participant au micro de Bagassi Koura, Averti Nzoyi, fondateur de l'ONG Espace Opoko en République du Congo.
La meilleure chose que je peux souligner ici, c'est le fait d'avoir rencontré le président américain Barack Obama. J'ai eu la chance de l'écouter, et j'ai eu la chance de le voir et de le saluer en face, parce que Barack Obama, pour moi, c'est un modèle. C'est une personne dont l'histoire a changé tout le cours de ma vie depuis 2008. Quelqu'un dont l'histoire démontre qu'on peut être issu d'une famille pauvre, mais grâce à l'éducation et grâce à la vision, devenir président de la plus grande puissance du monde.
Et vous avez aussi passé 6 semaines à l'Université de Virginie. Parlez-nous de cette formation.
Oui, cette formation était basée essentiellement sur le leadership civique. C'est des armes nécessaires pour le développement de l'Afrique, en fait.
Plusieurs de vos camarades vont retourner directement à partir d'ici dans leur pays. Vous restez encore pour quelques semaines en stage. Parlez-nous de ce stage-là.
Oui, je vais passer le stage au Colorado. C'est une ONG qui est spécialisée dans l'éducation des enfants et la construction des maisons pour les pauvres. Donc c'est exactement la place qu'il faut pour moi parce que j'interviens dans l'éducation des enfants en zone rurale. Et on sait qu'en Afrique, lorsqu'on parle des zones rurales, on voit tout de suite la pauvreté. Je vais voir comment est-ce qu'ils font pour avoir les fonds. Donc c'est quelque chose pour moi qui sera profitable sans doute pour mon ONG et pour le pays.
Averti Nzoyi, qui a participé à la seconde édition du sommet Yali des jeunes leaders africains ici à Washington. Et pour avoir une idée du chemin parcouru un an après la première rencontre washingtonienne des jeunes africains, Nicolas Pinot a tendu son micro à des participants de l'édition 2014.
La visite de la capitale Washington, la rencontre avec Barack Obama ou encore les cours dans les universités américaines. Les souvenirs sont nombreux pour ces jeunes leaders africains de l'édition 2014. Un an après, la motivation est la même, changer l'Afrique et être à la pointe d'un continent qui bouge. Vital Sounouvou est entrepreneur béninois. Il est le fondateur du site Exportunity qu'il décrit comme le eBay du commerce de gros.
Vraiment, ce que Yali nous a apporté, c'est vraiment la crédibilité nécessaire pour vraiment aller là où nous voulions aller. Nous avons belle expérience avec le Yali pour apprendre, comprendre comment sur le marché international ça marche et quels étaient les ajustements que nous devions faire. Et l'année qui s'est écoulée nous a permis de faire ces ajustements-là pour lancer de façon plus solide.
À Libreville, Willy Conrad Aseko Alogo lui veut retenir les échanges d'idées avec les autres jeunes du continent. Une leçon d'humilité pour le secrétaire général de l'Association des jeunes entrepreneurs gabonais.
Je tiens à préciser que le programme Yali, c'est un programme
qui rend déjà très très humble. Lorsqu'on est jeune et qu'on est très actif au niveau de son pays, on pense parfois qu'on vit en marge de ce qui se passe dans d'autres pays africains. On pense que les jeunes là-bas, ils sont au sol, dans d'autres pays, ils sont au soleil. On pense que dans d'autres pays, lorsqu'on est entrepreneur et qu'on est jeune entrepreneur gabonais, on pense que peut-être au Nigeria, au Ghana ou en Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas les problèmes liés aux attributions des marchés, à l'amélioration de l'écosystème entrepreneurial, etc., etc., etc. Et lorsqu'on rencontre 499 autres jeunes qui, en fait, vivent les mêmes problèmes, on en revient à minimiser son propre parcours et ça donne envie de faire encore plus qu'avant.
Cet ancien basketteur gabonais loue aussi le dialogue franc, ouvert et régulier avec les autorités américaines au Gabon. Washington lui a ainsi permis de participer au sommet mondial de l'entrepreneuriat à Nairobi le mois dernier. Alors certains critiquent le programme Yali, estimant que Washington essaie d'influencer les futurs décideurs africains, voire d'imposer sa vision libérale de l'économie. Faux, répond le Sénégalais Sobel Aziz Ngom, directeur de Social Change Factory.
Beaucoup de gens vont dire ce qu'ils veulent un petit peu sur le programme et sur l'idée derrière le programme, mais ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. L'idée pour nous, ce n'était pas de nous formater selon la culture ou la vision américaine. En tout cas, ce n'est pas du tout ce que j'ai retenu de ce programme, moi, personnellement. Parce que voilà, bon, pour moi, les États-Unis, voilà, comme pour beaucoup de gens, il y a le meilleur comme le pire. Donc, ce n'est pas forcément une inspiration. L'idée, ce n'est pas de ressembler aux États-Unis. C'est de prendre bon, ce qui existe de bien, de l'adapter si c'est possible, ou sinon, tout simplement, de créer des choses qui sont nouvelles et qui nous appartiennent, qui correspondent à nous-mêmes et à notre état d'esprit.
Le nombre de jeunes participants au Yali sera doublé l'année prochaine et passera de 500 à 1 millier en 2016.
Jacques Aristide avec vous. Ce jeudi, Washington Forum braque les projecteurs sur Yali 2, le second sommet des jeunes leaders africains aux États-Unis. Pour le président Obama, la jeunesse est le moteur du progrès. Le programme Yali peut-il aider les jeunes leaders africains à faire une réelle différence sur le continent ? Quelles doivent être leurs priorités ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
La Turquie a fait savoir mercredi qu'elle allait lancer bientôt une lutte d'envergure contre le groupe État islamique en Syrie. Une décision qui a été annoncée lors d'une rencontre en Malaisie entre le chef de la diplomatie turque et le secrétaire d'État américain John Kerry. Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse du professeur Emilio Viano de l'Université américaine, ici à Washington.
En réalité, l'objectif de la Turquie n'est pas l'État islamique. La Turquie vraiment veut contrôler le pouvoir des Kurdes dans le nord de l'Irak et de la Syrie à sa frontière. Il profite, si vous voulez, de cette situation pour bombarder les positions kurdes dans la Syrie, même dans le nord d'Irak, pour empêcher qu'ils puissent créer une zone de contrôle très près de la frontière avec la Turquie et avoir naturellement de liens militaire, par exemple, avec les Kurdes qui vivent dans la Turquie même, dans le sud-ouest de la Turquie. Je pense que c'est la priorité de la Turquie parce que la Turquie n'est pas contre l'État islamique. C'est le moindre de son souci. La Turquie veut que Assad laisse son pouvoir en Syrie. Et en réalité, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie sont ceux qui ont soutenu assez l'État islamique. Dans ma opinion, il y a une différence assez grande entre la Turquie et les États-Unis.
Cette situation place les États-Unis et le pays européen dans une position difficile.
Très difficile, vraiment, parce que, par exemple, le Peshmerga, le Kurde, sont les alliés les plus effectifs pour les États-Unis. L'armée irakienne, par exemple, ne s'est pas battue avec beaucoup de valeur. Ce sont les Kurdes qui se sont affrontés avec l'État islamique. Ils ont eu des victoires très importantes et contrôle un territoire assez grand et il voulait naturellement arriver jusqu'à la frontière avec la Turquie. C'est pour ça que la Turquie veut la zone de sécurité parce que si les Kurdes continue ses victoires, il sera très difficile après de les déloger et de les empêcher de créer un État indépendant comme on avait promis aux Kurdes à la fin de la Première Guerre mondiale ou au moins une région autonome et qui donne des espoirs aux Kurdes dans la Turquie aussi d'avoir plus de droits et peut-être d'autonomie.
C'était le professeur Emilio Viano de l'Université américaine à Washington. Et ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, assistée par John Ellison. Et avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Bon jeudi à toutes et à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.